Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec une partie de l'équipe, puisque vous n'êtes que 4 ce soir. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Babette.
Bonsoir, Elisabeth.
Mathieu Béliard n'est pas là, il nous rejoint demain. C'est donc Émilie Tranguyen qui prend en charge 5 sur 5 avec au sommaire ce soir, Émilie.
De nouvelles élections dans l'actualité. Pour la première fois en France, les livreurs de repas et chauffeurs VTC vont pouvoir voter pour avoir un syndicat.
Ce qui n'est pas inutile, étant donné les conditions de travail singulières.
C'est ce qu'ils vont nous expliquer. On
de
les a
ces
rencontrés.
Salariés. C'est dans le 5 sur 5 d'Émilie. Mohamed, votre story.
Le 30 juin 2009, un avion de la compagnie Yemenia s'écrasait au large des Comores, tuant 151 des 152 passagers. 13 ans après, le procès s'est ouvert aujourd'hui à Paris et on a assisté à l'ouverture du procès.
La story de Mohamed et votre édito, Patrick.
Est-ce que la NUP est un marché de dupes pour le PS, la nouvelle Union populaire écologique et sociale prônée, réorganisée par Jean-Luc Mélenchon? Je vais tenter de la défendre face à notre invité, en tout cas en expliquant que, en faisant cela, le PS renoue avec une partie de sa tradition.
Notre invité François Hollande, qui risque d'être donc agacé par l'édito de Patrick Cohen, l'ancien président, sera dans un instant sur notre plateau. Et Pierre, votre œil ce soir.
Peu de gens ont eu un musée de leur vivant, à leur gloire, je veux dire. Eh bien, Dylan, l'unique, a le sien depuis ce week-end à Tulsa, Oklahoma. Je vous emmène le visiter tout à l'heure.
Et sans décalage horaire, on fonce à Oklahoma avec Pierre dans l'œil. C'est juste après 20h et face à nos invités du dîner, Camille Crafton, comme on l'appelle aux États-Unis, ils sont absolument fous d'elle. Hollywood lui tend les bras. Elle est notre invitée du dîner aux côtés d'Olivia Ruiz, qui est non seulement chanteuse, mais aussi une excellente romancière. On est ravis de l'accueillir, de les accueillir autour du dîner préparé ce soir par Édouard Chouteau, chef de la laiterie. C'est à Lambersade, dans le Nord. C'est une ville limitrophe de Lille. Bonsoir, chef.
Bonsoir.
Ravi de vous savoir aux commandes de C'est à vous. Vous êtes en train d'écosser des petits pois.
Exactement, pour ce soir.
J'espère bien que ce n'est pas pour une autre fois. Alors, avec quoi vous nous servez ces petits pois?
Avec du haddock et un petit sabayon chicorée ail noir. Voilà, ça sent bon le nord.
Merci, Edouard. À tout à l'heure, une fois que tous les petits pois seront écossés. Samedi, à Aubervilliers, en réunissant ses alliés de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, Jean-Luc Mélenchon ne voulait rien de moins qu'écrire une page de l'histoire de France. Ce sont ces mots, leur étaient donc au sourire, aux embrassades et aux critiques de ceux qui ne goûtent pas cette union. Louis Amar et Anaïs Recouli étaient sur place pour C'est à vous.
Je suis fier et heureux. Les gens se disent ça y est, ils y sont arrivés, la gauche est de retour.
C'est assez exceptionnel. C'est un moment vraiment de fierté. Se retrouver ensemble, ça donne un espoir.
On peut ôter le pouvoir des mains d'Emmanuel Macron et je pense qu'on a fait le travail nécessaire pour être à la hauteur de ce moment. Et c'est un moment historique incontestablement.
Je vous prie d'acclamer le grand Jean-Luc Mélenchon.
Depuis le début de l'histoire, c'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions.
Quand on s'écoute un peu, pendant quelques heures, là, on se dit... Qu'est-ce qu'on se ressemble quand même? Donc ça vaut la peine.
Les personnalités à gauche qui dénoncent cet accord, qui ne s'y retrouvent pas.
Vous avez dit à gauche? Je comprends pas bien.
Carole Delga, elle est pas de gauche.
Franchement, quand des personnes...
Bernard Cazeneuve, il est pas de gauche.
Ah, non. Non.
François Hollande, il est pas de gauche.
Non, pour moi, c'est pas des personnes qui incarnent la gauche aujourd'hui.
Il y a toujours eu des gens qui sont attachés dans le vieux monde, qui pensent que c'est leur parti, leur personne, leur grande région, leur grande présidence, qui est le soleil autour duquel toutes les planètes doivent tourner.
Est-ce qu'on peut être de gauche et ne pas soutenir cet accord?
Ceux qui ne veulent pas de cet accord, je pense, ne comprennent pas le sens de l'histoire, surtout.
Bonsoir, Monsieur le Président.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer l'actualité, la situation en Ukraine, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron à laquelle vous avez assisté samedi, et les élections législatives à venir avec la gauche unie, emmenée par Jean-Luc Mélenchon. Une première réaction avant d'écouter l'édito de Patrick Cohen. Ceux qui ne soutiennent pas cet accord ne comprennent pas le sens de l'histoire. C'est le vieux monde. Il n'incarne pas la gauche d'aujourd'hui. C'est critique. Là, vous les balayez d'un revers de la main ? Parce qu'elles vous sont adressées entre autres.
Vous croyez ? Qui peut détenir le monopole de la gauche, de l'attribution de cet engagement ? Qui peut décider qui est vraiment de gauche et qui ne l'est pas ? Si c'est être vraiment de gauche d'être avec Jean-Luc Mélenchon, à l'évidence, moi je ne dirais pas que ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon ne sont pas de gauche. Il y en a qui partagent ses idées, et puis il y en a d'autres qui ne les partagent pas, et qui pensent que l'union qui a été réalisée avec le programme qui a été présenté et les circonscriptions qui ont été ainsi partagées ne permettent pas à la gauche précisément d'accéder au pouvoir. Parce que quel est l'enjeu de la politique ? Ce n'est pas forcément d'aller au pouvoir pour le pouvoir, c'est d'aller conquérir des circonscriptions, une élection présidentielle pour gouverner, pour diriger, mais pour changer la vie des gens. Est-ce que le programme de Jean-Luc Mélenchon permet de changer la vie des gens ? Peut-être que, en le lisant, certains trouveront de quoi être convaincus. Mais quand on fait la somme de tout ce qui est promis, on sait bien que ce programme ne peut pas permettre de trouver une majorité dans le pays. Et quand bien même il y aurait une majorité dans le pays, ne peut pas être appliquée, mise en œuvre, et donc ce serait dans double illusion. Illusion d'avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, illusion de penser que sur ce programme-là, il puisse atteindre ses objectifs.
Et pourtant, il y en a qui défendent la NUP. C'est le cas de Patrick Cohen ce soir dans son édito.
Oui, off.
Défendre la NUP ou la nuancer ?
Voilà, tout au moins nuancer quelques-unes des critiques entendues chez les gardiens du temple socialiste. La première, l'accord électoral est déséquilibré, c'est vrai, avec près de 360 candidatures communes sur 577. Les insoumis se taillent la part du lion, mais c'est la part de leur nouvelle hégémonie à gauche. Dans les derniers scrutins nationaux, en 2017 déjà, le PS ne faisait plus qu'un quart des voix de gauche, aussi bien à la présidentielle avec Benoît Hamon qu'aux législatives ensuite. En 2022, ce ratio s'est encore effondré avec le score lilliputien d'Anne Hidalgo, moins de 6% des votes de gauche. Avec ça, les socialistes obtiennent 12,5% des circonscriptions. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est conforme au rapport de force électorale.
Mais pas à l'implantation locale des socialistes.
Qui dirige 5 régions et 14 des 42 villes de plus de 100 000 habitants. Mais l'ancrage local n'est pas toujours le reflet d'une adhésion nationale. La preuve avec Macron ou Mélenchon, ou même avec les gaullistes qui détenaient tous les pouvoirs dans les années 60, mais pas les grandes villes. Le facteur personnel, la prime au sortant sont déterminants dans les scrutins locaux. En tout cas, ceux qui ont cru que le PS avait de beaux restes après les dernières municipales et régionales se sont mis le doigt dans l'œil. C'est le socialisme municipal et régional qui résistait.
Pour ces législatives, le PS n'aurait pas pu conclure un accord électoral avec les seuls écologistes comme en 2017 ?
Non, il ne le pouvait plus. Après l'accord signé entre les Verts et les Insoumis dès le 1er mai, le PS n'avait plus le choix que de partir seul à la bataille, désastre électoral assuré, ou de rejoindre le mouvement. Il est assez logique qu'il tente de profiter de la dynamique électorale mélenchoniste.
Mais au prix de grandes concessions sur le programme, notamment sur la possible désobéissance aux traités européens.
D'abord, les accords politiques sont toujours le produit de compromis, sinon il n'y a pas d'accord. Ensuite, sur l'Europe, je suis allé chercher ce que disait la gauche plurielle en 97, celle qui a amené Lionel Jospin à Matignon. À l'époque, les plus anti-européens étaient les communistes. Vous voyez la réunion au sommet des deux partis à la mutualité le 29 avril 97, après l'annonce de la dissolution. 11 dirigeants communistes d'un côté de la table, 11 socialistes de l'autre, vous y êtes, François Hollande, aux côtés, je ne sais pas si vous l'avez vu rapidement, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Que dit la déclaration commune ? Que les deux partis veulent en finir avec, je cite, « l'Europe libérale et des marchés financiers, qu'ils sont pour un dépassement du traité de Maastricht ». 8 jours plus tôt, Lionel Jospin avait fait un pas décisif en direction des communistes en déclarant ceci face à Anne Sinclair.
« Si, pour respecter le critère de 3%, que l'Allemagne, très vraisemblablement, ne respectera pas. Qu'un certain nombre d'autres pays, dont nous souhaitons qu'ils entrent dans l'Europe, dans l'euro, dès maintenant, ne respecteront pas. Si pour cela, il faut imposer actuellement, avec le taux de chômage qui est le nôtre, avec la faiblesse de la demande, de la consommation et du pouvoir d'achat qui sont les nôtres, avec la faiblesse de la croissance économique, s'il faut imposer une nouvelle cure d'austérité aux pays, ma réponse, elle est non. Non, je ne le... non à, au respect absolu du critère des 3%.
Non au respect des 3%, si ce n'est pas désobéir aux règles européennes, alors je ne sais pas ce que c'est.
Mais il y a tout le reste, la retraite à 60 ans, les nationalisations.
Oui, soit tout ce que le PS à peu près a promis dans le passé, y compris l'effacement de l'OTAN, c'était dans le programme commun de 72. Dissolution simultanée du traité de l'Atlantique Nord et du pacte de Varsovie. Bon, voilà, ça c'était pour le clin d'œil. En vérité, la NUP ne rompt pas avec la tradition du PS, du moins celui des années 70 et 80, mais il tourne le dos à votre quinquennat, François Hollande. Il affirme la prééminence de la gauche radicale et la revanche de celui qui vous a quitté il y a 14 ans, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas cessé de vous combattre pendant toutes ces années. Et donc, on peut comprendre votre amertume.
Non, je n'ai pas d'amertume. Et je ne me place pas du tout sur ce terrain-là. Je n'ai aucune revanche à prendre, aucune ambition à soulager ou à porter.
Mélenchon, lui, il avait une revanche ?
Je pense, oui. Ça fait partie et de son caractère et de ce qu'il a peut-être pu traverser ces dernières années. Moi, je n'en ai aucune. Je ne me place pas du tout sur ce terrain-là où ce serait simplement des affaires personnelles, des ambitions contrariées, etc. Donc, je salue d'abord l'exercice de style et de travail sur le fond de Patrick Cohen. Je reviens sur les différents aspects. L'union, il faut toujours la chercher. Et moi, dans toute ma vie politique, je l'ai toujours voulu et souvent obtenu, cette union, pour gagner. Mais ça doit être une union pour gagner et gouverner, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Deuxièmement, vous disiez, j'y reviens sur Lionel Jospin, parce que laissant penser que finalement, Lionel Jospin n'avait pas voulu respecter les traités. Ce n'est pas vrai. Il disait, face aux critères de Maastricht, comme beaucoup ne sont pas dans...
Nous pourrions déroger aux règles européennes, ça revient exactement à ce qu'il y avait écrit dans les accords.
Je vais y venir. Nous pourrions avoir un déficit plus important, et il a veillé d'ailleurs durant son mandat de Premier ministre à réduire les déficits, et il y a réussi. Mais il ne voulait pas que ça puisse être une cure d'austérité. Moi-même, quand j'arrive aux responsabilités en 2012, le déficit public, il est de plus de 5% de la richesse nationale. Et le critère, c'est 3%. Et je n'ai pas cessé, d'une certaine façon, à la fois de lutter contre les déficits, mais je ne suis jamais arrivé aux 3%. Parce que, je ne voulais pas faire d'austérité.
Donc et vous avez désobéi.
Non, parce que ce n'est pas la désobéissance. Ce n'est pas une désobéissance à un traité, c'est une négociation qui se fait et l'Europe accepte d'être flexible. Aujourd'hui même, Emmanuel Macron, d'une certaine façon, a un déficit qui dépasse 6%.
Oui, mais la règle a été mise entre parenthèses.
Non,
temporairement.
La règle a
depuis 2020.
A été mise entre parenthèses, mais la règle demeure. Donc il y a des situations, comme Lionel Jospin en a connu pour faire rentrer la France dans la zone euro. Il y a des situations comme je les ai connues après la crise financière pour avoir de la flexibilité. Et il y a, comme aujourd'hui, compte tenu de la crise qui s'est produite sur le plan sanitaire, des adaptations qui se font.
C'est là, pas ce que propose
mais non, mais là on n'est pas du tout dans ce domaine-là. La désobéissance, elle ne porte pas sur l'application d'une règle budgétaire. Elle porte sur les fondamentaux de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est le marché unique. Qui l'a voulu ? François Mitterrand. Qui l'a mis en place ? Jacques Delors. Le deuxième élément fondamental de l'Europe, c'est la libre circulation. Qui n'en voulait pas ? Les Britanniques. Ils sont sortis pour ça. La troisième règle...
Pour les personnes.
Oui, pour les personnes.
Ils voulaient bien les biens, mais pas les personnes.
Oui, c'est le principe, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Le troisième principe fondamental, c'est précisément l'euro et d'avoir donc une espèce d'harmonisation qui fait qu'il y a quelquefois des mesures qui peuvent ne pas nous plaire. Mais enfin, on a accepté la règle du jeu. Si vous dites « je désobéis », d'abord, sur le plan des principes, faire de la désobéissance un objectif en soi ou une méthode, c'est, à mon sens, une grave erreur. Une grave erreur, parce que pourquoi désobéir simplement aux règles européennes ? On peut désobéir aussi aux règles internationales. On peut désobéir aussi aux règles intérieures, parce que finalement, la Constitution nous gêne, parce qu'il y a des lois qui nous préoccupent. Allez, on désobéit. Bel exemple aussi qu'on donne aux générations qui viennent. Le mieux, c'est de désobéir. Lutter, combattre, négocier, remettre à chaque fois l'offensive, ça fait partie d'une espérance politique. Dire, moi, je désobéis. Par ailleurs, si on désobéit, on sort. Parce que penser que l'Europe...
Ça veut dire que c'est un Frexit déguisé que propose Jean-Luc Mélenchon.
Mais quand il a eu cette phrase qui correspond à sa pensée, je la respecte, il dit « L'Europe, où on la change, on la quitte. »
C'était en 2017. C'était dans son programme de 2017.
Il a dit,
on peut évoluer aussi.
On peut évoluer. Donc là, maintenant, il dit « Je désobéis. » Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je peux donner mon expérience. Je n'accepte plus les règles. Ah ben, vous n'acceptez plus les règles. Vous ne voulez même pas verser votre contribution financière à l'Union européenne parce qu'elle est plus que ce que vous recevez. Ah bon? Vous ne voulez plus respecter les règles de concurrence. Ah bon? Vous ne voulez plus non plus avoir des règles qui vous permettent d'avoir une politique économique qui soit compatible avec les autres. Ah bon? Vous voulez avoir des monopoles pour les services publics. Ah bon? Bah, écoutez, vous sortez. On ne vous oblige pas, personne n'oblige aucun pays à rester dans l'Union européenne. Et c'est en ce sens que je trouve que cette question de la désobéissance est une question fondamentale. Alors qu'on puisse dire, même dans un accord politique, on va essayer de dépasser, c'était la formule de Lionel Jospin, bonne formule, on va essayer de renégocier, on peut le dire. Moi-même, je l'avais dit dans mon programme de 2012, on peut essayer de dire, j'essaierai de voir avec nos partenaires comment on peut contourner un certain nombre d'ordres, mais pas les principes fondamentaux. Et c'est en ce sens que l'Union, de ce point de vue, est un précédent extrêmement préoccupant. Parce que la gauche, c'est toujours elle qui a fait avancer l'Europe. Pas simplement la gauche, convenons-en. Enfin, c'est François Mitterrand, c'est Lionel Jospin, c'est moi-même. On a fait avancer l'Europe. Et donc on a besoin d'avoir une gauche qui soit à la fois consciente de ce que l'Europe, quelquefois, nous contraint, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte aussi. Et si la gauche perd cet engagement européen, alors je vais faire comme un certain nombre d'interlocuteurs, c'est plus tout à fait la gauche.
Donc la fracture de 2005 sur le référendum du traité constitutionnel européen est indépassable. On ne peut pas réconcilier ou réunir les deux gauches de 2005.
D'une certaine façon, elle est dépassée chaque jour. Si on veut rester dans l'Union européenne avec des socialistes, parce que je rappelle qu'il y a quand même des socialistes qui gouvernent en Europe, on négocie avec ses partenaires. On n'est pas obligé d'être toujours dans une forme de soumission aux règles européennes telles qu'elles sont. On négocie, on travaille. Mais oui, on est capable de le dépasser. Mais dépasser le traité du constitutionnel européen, ce n'est pas quitter l'Union européenne. Souvent, il y a un malentendu. Le référendum de 2005, ce n'était pas un référendum pour partir de l'Union européenne. C'était un référendum contre un traité constitutionnel, honnêtement, qui était la somme des traités. Donc ceux qui disent on ne veut pas respecter les traités, on veut désobéir aux traités, ils sont dans le vieux débat de 2005. Mais enfin, il faut quand même être capable de le dépasser. Qui aujourd'hui a envie de quitter l'Union européenne? Quand il y a la crise en Ukraine, quand il y a eu une crise sanitaire où l'Europe a été plutôt à son avantage sur les médicaments, qui a envie de sortir de l'Union européenne ou de la mettre en difficulté, en tourmente, quand il y a une inflation qui arrive, quand il y a l'euro qui est quand même une protection? Qui a envie de faire ça?
Oui, mais les candidats critiques à l'égard de l'Union européenne ont obtenu un peu plus de 50% des voix à la dernière présidence.
Non, parce que je fais je ne peux pas ici disserter sur le vote Le Pen, mais sur le vote Mélenchon, il y a une partie qui était effectivement dans une position hostile à l'Union européenne et même à la politique que j'ai conduite, et je respecte cet électorat. Puis il y en a, je dirais, la moitié qui ont dit « qu'est-ce qu'on fait dans cette élection ?» Les socialistes sont à des niveaux tout à fait… Lilliputien avez-vous dit, je l'avais commencé moi-même.
Il faut
toujours avoir les droits d'auteur. Donc alors, les écologistes, je suis écologiste, mais est-ce que c'est vraiment le vote qui va porter? Donc beaucoup ont voté pour Jean-Luc Mélenchon dans cet esprit-là, mais pas pour avoir le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a même qui disaient, moi je vote Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais je voterai Macron au second tour. Alors, je dis quand même, essayez d'être un peu cohérent, mais ça existait. Il y a des gens qui ne voulaient pas se retrouver, je pouvais les comprendre. Avec une fois encore Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais j'ajoute, bien sûr que Jean-Luc Mélenchon sait qu'il ne sera pas Premier ministre. Bien sûr que s'il devenait Premier ministre, il sait parfaitement que ce programme, celui que vous n'avez pas complètement détaillé, serait irréalisable.
Il fait tout ça pour être chef de l'opposition.
Il le fait pour être candidat de nouveau à l'élection présidentielle de 2027.
Ah bon?
Pourquoi le ferait-il?
Je ne sais pas.
Je vous donne la réponse.
Déjà, c'était il y a 15 jours.
Et vous ne pensez pas que Marine Le Pen pense exactement la même chose? Le seul qui ne peut pas y penser, c'est Emmanuel Macron, puisqu'il ne peut pas être candidat. Mais donc, on va se retrouver dans 5 ans, s'il n'y a pas une force socialiste ou une force de gauche qui soit crédible, qui soit réformiste, parce que c'est ça, les victoires de la gauche, elles sont toujours venues quand la gauche réformiste était plus forte que la gauche radicale. C'est ce qui a permis l'élection de François Mitterrand. Si le Parti communiste avait été plus fort que le Parti socialiste en 1980, François Mitterrand n'aurait pas gagné.
Cette force de gauche, vous allez la constituer, vous, au sein du Parti socialiste, puisque vous ne voulez pas le quitter, contrairement à d'autres, contrairement à Bernard Cazeneuve, par exemple?
Je pense que tous ceux, à l'intérieur du Parti socialiste, il y en a quand même beaucoup, tous ceux qui sont à l'extérieur, il y en a encore peut-être davantage, qui ont envie d'une force de gauche qui puisse, bien sûr, sans écarter l'autre gauche. Je ne suis pas du tout sur les gauches irréconciliables, mais être la force motrice pour permettre tout simplement une alternance. Parce que la prochaine fois, dans 5 ans, on veut encore avoir le non-choix. Alors, vous êtes pour écarter l'extrême droite, vous êtes pour écarter la gauche radicale, vous êtes obligé de prendre le seul menu qui vous est présenté. Eh bien non. Moi, je ne suis pas pour le menu imposé. Je suis pour qu'il y ait de l'alternance en France, que la droite républicaine se reconstitue, que la gauche réformiste soit là, et c'est quand même mieux de
manger... Et qui s'appellerait toujours le Parti socialiste, par exemple, ou avec vous. Qui s'appellerait toujours le Parti socialiste avec vous.
Qui s'appellerait socialiste, parce que je crois qu'il ne faut pas abandonner la marque. C'est François Mitterrand, parce que ce n'est pas nouveau le fait que... Parti socialiste soit dans des crises, c'est son histoire. Et François Mitterrand m'avait dit, vous savez, si vous abandonnez le mot socialiste, il y aura bien toujours quelqu'un qui le ramassera pour en faire son parti. C'est pas faux. Donc, le drapeau, il ne faut pas le laisser tomber. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut essayer d'élargir. Mais ça, c'est une question majeure. Il faut de l'alternance dans notre pays. Et aujourd'hui, quand on a des pôles extrêmes, finalement, certains ont même théorisé ça. Il y a un extrême centre, il y a une extrême droite, et il y a une extrême gauche. Et bien, quand il n'y a que des extrêmes, et bien, il n'y a pas d'alternance.
Vous allez vous présenter aux élections législatives. Vous n'avez pas encore décidé.
Non, parce que je ne suis pas du tout dans une démarche personnelle. Je vous l'ai dit
vous
tout à l'heure.
Vous ne pensez pas à 2027, par exemple. Contrairement à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Si j'avais dû penser à une élection, j'aurais dû faire celle de 2017 déjà.
Oui.
Peut-être même celle de 2022. Donc je ne vais pas me dire, vous savez, il y a encore, j'ai une espérance de vie. Toutes les élections, je vais m'y préparer. Non, j'essaye d'être utile comme je le peux, avec mon expérience et sans rechercher quoi que ce soit pour moi-même. Vous savez, ça aide quand on n'a pas de préjugés, ça aide, et quand on n'a pas non plus d'idées cachées.
Mais là, être utile à partir du 19 juin, ça n'est pas encore décidé. Est-ce que c'est parce que la circonscription de Corrèze, dont vous avez été député pendant 24 ans, a été réservée à la France insoumise?
Oui, je trouvais que c'était un geste délicat qui m'avait été adressé à mon intention.
Pas la seule, hein. Il n'y en a aucune réservée au PS dans le département.
Oui,
de la Corrèze.
Il n'y a que deux circonscriptions.
Oui, il y a deux circonscriptions.
Mais je dis toujours, si je n'avais pas été élu dans cette circonscription-là, si les Corréziens ne m'avaient pas fait confiance, je ne serais pas devenu président de la République. Et si je n'étais pas devenu président de la République, il n'y aurait pas eu un certain nombre d'avancées dont je vous ferai grâce ici de vous donner la liste, mais que Patrick Cohen, dans un prochain exercice, vous livrera.
Hier, Lionel Jospin était sur un marché du 20e arrondissement de Paris pour soutenir Lamia El Arache, députée socialiste sortante, écartée par l'accord avec la France insoumise.
Quoi qu'il soit décidé, je serai à ses côtés jusqu'au bout, dans le quartier dont elle est la députée sortante. Et seuls ceux qui ont voté pour elle peuvent décider s'ils ne voteront plus pour elle ou s'ils vont lui renouveler leur confiance. Personne ne peut décider à leur place. C'est le respect du suffrage universel.
Est-ce que vous encouragez les candidats socialistes écartés à se présenter quand même ?
Lionel Jospin le fait par rapport à une candidate qui était députée sortante et qui, normalement, dans le cadre de l'accord, aurait dû être automatiquement choisie pour être la candidature unique de la NUP. Bon. Et donc, il le fait parce qu'il dit qu'il y a une dérogation. Pourquoi on n'a pas accordé à cette candidate, Lamia, qui est une candidate qui a été une députée, qui est une femme que je connais, qui est admirable, pourquoi on ne lui a pas permis d'être candidate? Et puis, il y a d'autres candidats qui pouvaient dire... Et j'en connais beaucoup des socialistes qui pourraient dire, mais même pour permettre une majorité, ça aurait été mieux de désigner des socialistes qui ont un ancrage sur le terrain, qui peuvent gagner une circonscription, et d'avoir réservé en candidature unique 360 circonscriptions pour la France insoumise, c'était peut-être la meilleure des façons de ne pas avoir de majorité. Finalement, c'est la première fois, il l'a dit, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai, qu'on oblige des candidatures uniques, mais les électeurs, ils ont quand même le choix. Ils peuvent se dire, si je ne veux pas de la France insoumise, je peux peut-être avoir du socialiste, ou du communiste, ou de l'écologiste. Là, on les prive de ce choix-là. Donc, qu'il y ait des candidats socialistes qui se disent, écoutez, moi, je suis dans la meilleure des situations pour l'emporter. Et en plus, j'ai fait un certain travail sur le terrain. Ça me paraît tout à fait...
Donc, vous les encouragez?
Je ne les encourage pas. Je ne suis pas là pour créer je ne sais quel dissident, mais je trouve qu'il y a des moments où on se dit, j'étais le mieux placé pour l'emporter dans un esprit de gauche, pourquoi on m'a mis une candidature? Je vois par exemple qu'à Vénissieux, c'est le Parti communiste qui s'est un peu gendarmé, à l'armée même, en disant, il y a un candidat de la France insoumise qui a été condamné pour injure, pourquoi c'est pas la maire de Vénissieux qui est candidate?
Donc là,
c'est un bon raisonnement. Oui.
Si je vous entends, la direction du Parti socialiste et ses négociateurs n'ont fait que de mauvais calculs et de mauvais compromis avec, avec les insoumis ?
Je pense qu'ils se sont eux-mêmes mis dans la ligne des insoumis. Un accord tactique, ça peut se faire. On se dit, bon, il y a une épreuve, il y a des élections. Bon, bah, on n'est pas tous d'accord, mais il faut essayer de trouver le meilleur compromis, etc. Non, ils se sont mis intellectuellement, si je puis dire, idéologiquement, sur la ligne des insoumis. Ils n'étaient pas obligés de ratifier ce programme. Et ils l'ont fait uniquement pour... Pourquoi ? Pour 30 circonscriptions supposées gagnables. 30 circonscriptions, c'est-à-dire l'équivalent du groupe socialiste d'aujourd'hui. Enfin, ça méritait mieux. Et que même s'il y avait une majorité pour la NUP, comme vous dites, s'il y avait même une majorité, il n'aurait que 30 députés. Enfin, quel est cette, même sur un simplement un calcul électoral, oui, je pense que en termes de négociation,
ils se sont fait avoir, c'est ça,
enfin,
en
je
fait.
Crois, oui, mais ils se sont fait avoir parce qu'ils ont voulu se faire avoir. C'est pire, si vous voulez. Ouais. Quelquefois, vous pouvez être trompé. Ouais. Quand vous acceptez d'être trompé, bon, bah, tant pis.
Il n'avait plus le choix. À compter du moment où les écologistes avaient signé, c'était.
Qu'est-ce qui vous est pensé que les 30 députés sortants n'auraient pas pu être élus par eux-mêmes?
Ah ben si, ben ça fait pareil. Alors ça fait 30 et 30.
Non, mais je veux dire, ils pouvaient être. Ils avaient un certain rapport de force.
C'est pas au prix de concession, quoi. Amertume n'est pas le bon mot. Colère, peut-être, non? Quand on vous écoute.
Non, mais quand ma colère, elle est sur le contenu. Elle n'est pas sur les limites, les affaires de circonscription. C'est vrai que ça oui. peut heurter. Je comprends tout à fait la démarche de Lionel Jospin. Mais c'est sur le contenu. Je crois qu'on n'a pas besoin de s'effacer. La politique, ce n'est pas fait pour ne plus avoir d'idées. Quelquefois, il faut s'adapter. Mais renoncer à ses idées... c'est renoncer à son identité. Renoncer à son identité, c'est disparaître. Et donc c'est pour ça que je crois, très important pour la vie politique française, que réémerge une force, des personnes comme Carole Delga, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Hélène Geoffroy, il y a plein de monde, les maires de socialistes qui sont nombreux, les présidents des régions. Voilà, il faut recréer cette force sur une identité. Et quelle est l'identité? C'est d'être capable, dans un monde qui est quand même très, très dur, dans une Europe, qui va connaître des mutations, d'assurer la lutte contre le réchauffement climatique, ça va être la grande question. La lutte contre les inégalités, et notamment contre l'inflation, qui est quand même maintenant revenue et qui perturbe tout dans les comportements, et de faire en sorte que, sur le plan démocratique, nous ayons aussi des avancées. Voilà, c'est ça la social-démocratie ou le socialisme, c'est d'être capable de mettre plus de démocratie, de mettre plus de justice, et d'avoir en plus cette perspective d'avoir une planète qui soit vivable.
Je ne vous apprends rien, Emmanuel Macron a été investi pour son second mandat samedi en fin de matinée à l'Élysée, une cérémonie plus courte qu'il y a 5 ans à laquelle vous étiez invité, tout comme Nicolas Sarkozy.
Agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle. C'est pourquoi il nous faut, tous ensemble, inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usées.
Bravo l'artiste. Oh, super, magnifique.
Ah, dans un pays...
Oui, tu peux l'embarquer.
Mais on peut l'embarquer, je pense. C'est ce que j'ai essayé de d'esquisser.
On vient de voir votre ancienne ministre Marisol Touraine donner un conseil amical au président. Manuel Valls, votre ancien Premier ministre, était présent aussi. Il a même été investi candidat à LREM pour les législatives. Vous avez un commentaire sur ces engagements de vos anciens ministres, y compris le premier?
Oui, oui, chacun fait sa vie politique comme il l'entend. Je ne suis pas là pour les retenir ou pour les contraindre. Ils pensent sans doute qu'ils pourront agir alors même que il y aura des ministres de droite, que la politique sera sans doute, j'espère, différente dans la méthode, puisque ça a été annoncé, mais enfin dans un sens qui sera plutôt libéral, ou voire même austère, hein, compte tenu de ce qui nous attend. Bon, voilà, je pense là aussi, la confusion politique est un problème. Tout à l'heure, j'ai dit la radicalité politique est un problème, mais la confusion l'est aussi. Quand on ne sait plus la différence entre la gauche, la droite, ceux qui ont gouverné hier, je voyais Jean-Pierre Raffarin émerveillé de d'Emmanuel Macron. C'est bien à son âge d'être émerveillé comme ça. D'avoir Marisol Touraine qui dit « tout est possible », sous-entendu bah, « moi aussi, je suis là, tout est possible. » Donc, Emmanuel Valls qui regarde gourmand ce que peut-être on lui donnera demain. Bon, voilà. Et ben, quand les Français voient ça, ils se disent « Mais c'est quoi la vie politique ?» C'est donc une affaire d'arrangement, de place, avec des personnes tout à fait estimables. Mais ce n'est que ça, la politique. Non, la politique, c'est des idées, c'est des clivages. On n'est pas toujours d'accord. Parfois, on doit être ensemble. Quand il y a des crises, des terrorismes, la guerre en Ukraine, on doit être ensemble. Mais la politique, c'est d'abord de pouvoir s'affronter et de pouvoir choisir son destin. Et si la politique, c'est simplement des carrières, à un moment, il y a une coupure. Et on l'a vu, la coupure. Elle était là pendant l'élection présidentielle. Et donc, quand il y a une société politique qui est à côté de la société elle-même, eh bien, elle se radicalise, la société elle-même. C'est ce qui, d'ailleurs, se produit avec les extrêmes. Elle se radicalise.
Oui, j'ai remarqué un autre aparté. C'était pour les cérémonies du 8 mai. Et je vous ai vu à côté d'un de vos plus vieux compagnons, oui, qui était Jean-Yves Le Drian, qui est, avec qui vous avez fait
un long parcours,
et notamment au début du Parti Socialiste, avec Jean-Pierre Mignard, le Transcourant, Jean-François Trans, le club Delors, etc. Et là, on vous retrouve, c'est pas fréquent de vous avoir... vous voir côte à côte aujourd'hui, alors qu'il a été votre ministre pendant 5 ans, et le ministre d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. Il est ministre depuis 10 ans.
Oui.
Là, il n'y a pas de confusion.
Il arrête, donc...
Il arrête, vous êtes sûr?
C'est ce qu'il m'a...
Ah, c'est ce qu'il vous a dit, donc on a un scoop.
Vous avez une information, mais peut-être...
Donc il ne sera pas dans le...
Il sera retenu. Mais, non, mais on parlait de quoi? On parlait, en fait, du Mali, de l'Afrique, des décisions que nous avions pu prendre ensemble. Pour le reste, le Bossier a fait son chemin. Moi, il a été un bon ministre de la Défense. Après, ce qu'il a fait comme ministre des Affaires étrangères, on ne l'a pas vu énormément.
Je reviens à la cérémonie d'investiture. Pas mal de gens avaient les yeux braqués sur vous et sur Nicolas Sarkozy. J'ai essayé de lire sur vos lèvres, j'ai pas tout compris, ça semblait assez cordial. Et à côté de moi, à côté, on voit Nicolas Sarkozy qui aimerait bien essayer d'entendre aussi ce que vous vous êtes dit.
Mais je peux vous donner donc la traduction, puisque vous n'arrivez pas
Il est plus expressif, Nicolas.
J'ai dit, il y a 5 ans, j'avais dit bon courage pour ce mandat. Je renouvelle ce vœu. Bon courage.
Ça paraissait plus long. Hein. Moi non plus, je ne lis pas bien sur les lèvres, mais...
Non, mais il n'y avait pas beaucoup plus à dire.
D'accord.
Je pense que mes encouragements, c'est ce que les Français souhaitent pour eux-mêmes, pour que ça puisse réussir. L'objet, quand même, d'une cérémonie comme celle-là, c'est la République. On préfère que notre pays aille dans le bon sens, aille mieux que s'il connaît des crises et des difficultés.
Emmanuel Macron, réélu, qui a donc présidé hier la cérémonie du 8 mai dans le contexte de la guerre en Ukraine, pays sous les bombes russes depuis bientôt 3 mois et dont Vladimir Poutine n'a pas une seule fois prononcé le mot ce matin. Son discours d'une dizaine de minutes à l'occasion de la commémoration de la victoire contre l'Allemagne nazie a pourtant été en majeure partie consacré à justifier une nouvelle fois l'offensive en Ukraine. Discours précédé par une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Et notre devoir, хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился.
Мы пишаемся нашими предками, которые разом с другими народами в складе антигитлеровской коалиции перемогли нацизм.
Вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России.
Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. Слава Україні!
Слава нашим доблесним вооруженним силам! За Росію! За победу! Ура!
Ура! On craignait que le président russe n'augmente d'un cran sa rhétorique guerrière contre l'Ukraine. Il a été moins va-t-en-guerre que ce à quoi il l'avait pu habituer. C'est le signe qu'il est en difficulté, isolé. En tout cas, ça, c'était visuellement impressionnant.
Bon, il n'est pas isolé, vous avez vu hein, par qui il est entouré.
Internationalement.
Oui, c'est le plan international. Aucun chef d'État n'avait été convié, entre guillemets.
Ouais. Ce qui compte maintenant pour lui, c'est de gagner la guerre. La guerre, pour, sans doute, initialement, c'était conquérir toute l'Ukraine. Il a, de ce point de vue, renoncé à ses premiers objectifs, c'est de conquérir le Donbass et le sud de l'Ukraine. Ensuite, c'est de convaincre les Russes que les sacrifices qu'il les oblige à consentir, y compris des sacrifices humains, sont justifiés. Donc son argument, il était intérieur. C'est ça qu'il c'était pas d'avoir des ralliements internationaux, il est intérieur, ni même d'évoquer la menace nucléaire qu'il n'a pas brandie cette fois-ci. Et quand il veut convaincre son peuple, il fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale et il traite les Ukrainiens de nazis. Pour lui, c'est le même combat que contre le nazisme il y a maintenant 80 ans. Et penser que les Russes, faute d'informations, puissent adhérer à ce discours. Il y a vous avez entendu, il y a des familles qui pensent qu'effectivement, ce sont des nazis qui sont présents en Ukraine. Donc je pense que c'est un discours qui contribue à lever l'esprit guerrier en Russie et pour convaincre son peuple que ça va durer. Eh bien, peut-être l'information qu'il faut garder, c'est que ça va durer.
Et qu'il faut l'arrêter.
Et qu'il faut l'arrêter. Comment l'arrêter par les sanctions et en fournissant des armes. Et
Sans craindre la fameuse escalade.
Voilà, vous avez tout à fait raison. C'est qu'à un moment, il brandissait la menace nucléaire pour qu'il n'y ait pas de fourniture d'armes. Il y a eu des fournitures d'armes des États-Unis, mais aussi des Européens, y compris des Allemands. Et il n'a pas pour autant été dans une nouvelle escalade. Parce que Poutine, il ne comprend que le rapport de force. Donc, il sait que maintenant, ça va être une guerre plus longue et plus limitée. Donc, il va aller jusqu'au bout. Et en même temps qu'il faisait ce discours, à Mariupol, il y avait un défilé des séparatistes, en fait des Russes. Et il continuait à bombarder, parce que c'est sa seule méthode.
Emmanuel Macron n'a jamais vraiment rompu le dialogue avec Vladimir Poutine. Un entretien a eu lieu il y a encore 6 jours. Les échanges se sont espacés. Mais vous jugez ce lien de plus en plus risqué, François Hollande ?
Il faut toujours qu'il y ait un lien, mais dans des conversations, surtout avec Vladimir Poutine, il faut faire passer un message et ne pas être l'instrument de la communication de Vladimir Poutine. C'est-à-dire ne pas finalement permettre à Vladimir Poutine d'être de nouveau capable d'instiller ses intentions. Donc c'est pour ça que ça ne doit être qu'exceptionnel si on doit y avoir un contact avec Vladimir Poutine. D'autant qu'on ne peut pas dire le pire de Vladimir Poutine publiquement et avoir après une conversation avec Vladimir Poutine. Là où Emmanuel Macron a raison, c'est qu'il faut tout continuer à distinguer Vladimir Poutine de la Russie.
Vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouabsi.
Monsieur le Président.
Mohamed, un drame qui a eu lieu le 30 juin 2009.
C'était il y a 13 ans, dans la nuit du 29 au 30 juin 2009, le vol Yemenia 626 s'abîme au large des Comores, juste avant son atterrissage à Moroni. À son bord, 11 membres d'équipage et 142 passagers, dont 66 Français.
Nouvelle catastrophe aérienne aux Comores. Un Airbus A310 d'une compagnie yéménite s'est abîmé avec 153 personnes à bord, dont 66 Français.
Depuis la plage, les autorités comoriennes ont entamé les opérations de sauvetage. Un médecin d'un hôpital de Moroni a d'ailleurs confirmé qu'une adolescente de 14 ans a survécu.
Les boîtes noires retrouvées fin août commencent à parler. L'hypothèse d'une erreur humaine n'est pas écartée. C'est en tout cas ce qu'affirment les associations des familles des victimes.
Le procès pour homicide et blessure involontaire de la compagnie yéménite s'est ouvert ce midi. La présidente a démarré le procès en nommant toutes les personnes décédées dans l'accident. Beaucoup de pleurs dans l'assistance. Une seule personne continue de réconforter les familles des victimes, Baya Bakara, la seule survivante du crash. Elle avait 12 ans à l'époque. Elle a survécu seule 11 heures en mer.
Je me réveille dans l'eau la nuit. Il y a un petit peu une lumière, mais c'est pas vraiment une lumière. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Et des cris de femmes, beaucoup de cris qui appellent à l'aide, qui pleurent. Et Alors c'est bizarre parce que j'ai fait preuve d'une très grande lucidité. Il y avait des débris à côté de moi et je les ai attrapés. Et j'ai commencé à appeler à l'aide. Vraiment, j'avais perdu espoir à ce moment-là. Et j'avais posé ma tête en fait, sur le débris. Je me suis dit, on ne va plus jamais me retrouver.
Quelques semaines après le crash, les boîtes noires avaient été repêchées entre le Mozambique et Madagascar. Selon les expertises fondées sur les enregistreurs de vol, l'accident est dû à des erreurs de l'équipage dans le cadre de l'approche de l'aéroport de Moroni. Pendant 4 semaines, la justice française va désormais examiner des soupçons de manquement et négligence de la compagnie aérienne. Elle encourt 225 000 euros d'amende. L'avocat de Baya Bakara, la seule survivante, nous explique dans quel état d'esprit elle est avant de témoigner.
D'abord, elle a beaucoup de courage, elle a fait preuve de résilience et en même temps, elle va venir témoigner pour rappeler ce qu'elle a vécu. C'est une capacité extraordinaire, je le disais tout à l'heure, de résilience, d'adaptation aux situations, tout en restant sans doute, comme toute victime, fragile et vulnérable. Mais on peut le surmonter et je pense que le procès va aider les autres victimes aussi à surmonter cela.
Ce procès est aussi le moyen pour des milliers de Comoriens de dénoncer les conditions de voyage très alarmantes en termes de sécurité entre la France et les Comores via le Yémen. Ce procès était attendu depuis 13 ans par les proches des victimes.
C'est un grand jour parce qu'après 13 ans de lutte quand même dure, impitoyable, parce que les partis en face, ils n'étaient pas faciles. L'objectif, c'est d'obtenir des sanctions, tout ce qui est prévu par la loi française le maximum possible. Notamment l'interdiction totale de la compagnie Emenia de ses vols en Europe, en France, à destination des Comores. Pour nous, c'est l'objectif principal. Après, on espère que ce procès servira de leçon pour interdire toutes les compagnies voyous et tous les avions poubelles pour que ça ne se reproduise plus jamais.
Ce procès permettra aussi de faire la lumière sur le traitement du drame par les autorités yéménites. Plusieurs familles dénoncent la pression émise par le pays pour protéger sa compagnie nationale. Aucun représentant de la compagnie Yemenia Airlines ne s'est présenté ce midi au tribunal. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que dans votre mandat, vous aviez rencontré des proches de victimes.
Oui, j'ai rencontré les proches de victimes et puis j'ai connu comme président plusieurs catastrophes aériennes. Et c'est toujours des moments terribles parce que je réunissais les familles qui voulaient des informations, qui voulaient savoir si leurs proches étaient effectivement dans l'avion. C'est des moments très douloureux et il y a toujours cette recherche de la responsabilité. Comment ça s'est passé? Pourquoi cet avion? Rappelez-vous, il y a eu cet avion qui avait heurté une montagne dans les Alpes de Haute-Provence.
German Wings.
Il y a eu un autre avion qui, partant de Ouagadougou pour aller à Alger, s'était abîmé dans une tempête de sable et avait été écrasé, s'était écrasé au Mali. Donc, et donc il faut parler à toutes ces victimes qui veulent toujours avoir toutes les informations. Et donc les compagnies doivent absolument contribuer et les boîtes noires sont aussi très importantes. Je veux souligner le travail admirable que font ces personnes qui recueillent les informations sur place.
Les membres du BEA en France.
Les membres du BEA. C'est vraiment des gens que j'ai appris à connaître, qui sont admirables. Vous savez, quand il s'agit d'identifier des corps, alors même qu'il ne reste plus grand-chose, c'est un travail tout à fait nécessaire pour faire que le deuil puisse s'accomplir. C'est vraiment ça que aussi ce reportage illustre. Après, il y a une survivante et c'est ce que espèrent toujours les personnes qui sont dans les
retrouver
une. Est-ce qu'il n'y a pas un survivant, une survivante?
Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 d'Émilie Tringuyenne.
Bonsoir
Émilie. Le couple Fillon condamné en appel dans l'affaire des emplois fictifs, mais il ne compte pas s'arrêter là.
Il n'était pas présent aujourd'hui à la cour d'appel de Paris. En revanche, on a appris dans l'après-midi que François Fillon allait se pourvoir en cassation, dernier recours qu'une personne puisse exercer contre une décision de justice en France. François Fillon a en effet été condamné en appel à 4 ans de prison, dont un an ferme, son épouse Pénélope a 2 ans de prison avec sursis. C'est certes moins qu'en première instance, c'était 5 ans de prison dont 2 fermes pour lui, 3 ans de prison avec sursis pour elle, mais c'est encore loin de ce qu'ils attendent, la reconnaissance de leur innocence. François Fillon l'expliquait déjà dès 2017.
Je voudrais dire que je suis innocent. Que ma femme a travaillé avec moi pendant des années, comme c'est le cas de centaines et de centaines de parlementaires. La justice a décidé de me mettre en examen, très bien. Il y aura donc maintenant une procédure qui va être longue et dont je n'ai pas de doute sur l'issue. Désormais, toutes les questions qui relèvent de la justice et qui me seront posées par les journalistes, c'est mon avocat.
L'ex-premier ministre a également été condamné à 375 000 euros d'amende, 10 ans d'inéligibilité par la Cour d'appel de Paris. François Hollande, il a raison, vous le comprenez, qu'il se pourvoit en cassation, ou est-ce qu'on peut parler d'acharnement judiciaire dans ces cas-là ?
Il exerce son droit de justiciable, il va jusqu'au bout de la procédure, il a été en appel, il va maintenant en cassation. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Sur le fond, les juges d'appel ont prononcé des condamnations. La Cour de cassation ne peut d'ailleurs revenir que sur des vices de forme. Nous verrons s'ils existent. Je fais juste là un commentaire qui me concerne. C'est-à-dire quand j'étais président au moment où il y a eu le surgissement de cette affaire, et on avait laissé supposer qu'il y avait un cabinet noir.
Oui.
Il n'est pas noir.
Il n'y avait ni cabinet, si je puis dire, ni noir. Il n'y avait rien. Et donc la justice chemine. Peut-être la Cour de cassation annulera cette décision. Bon, je n'ai pas à commenter. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y avait aucune trace de quelque intervention de la part de l'exécutif. J'étais à la tête du pays, à la tête de l'État. C'était une affaire qui a suivi son cours, et l'État ne s'en est aucune manière mêlé. Et il y a aussi un grand principe que j'avais fixé, j'espère qu'il est encore, oui, je crois qu'il l'est, respecté, c'est que l'État ne se mêle pas des affaires judiciaires. La justice, elle est indépendante en France. En tout cas, elle l'a été tout au long de mon mandat.
Des élections tout à fait inédites. Les chauffeurs VTC et livreurs de repas peuvent voter à partir d'aujourd'hui pour leurs représentants syndicaux.
Et il était temps à les écouter si leur métier leur offre une certaine liberté. Cette liberté a un coût. Audrey Payas et Camille Schmitt ont rencontré James, 28 ans, et Yaya, 26 ans, deux livreurs, même doléance.
Depuis la Covid, ils sont sur le terrain l'été, l'hiver, quand il pleut, ils sont là. Et ils ne sont pas bien traités, vraiment.
Il y a plein qui ne sont pas polis avec nous. Parfois, ils donnent une adresse où le numéro d'interphone n'est pas marqué. Alors, vous êtes obligé de les appeler. Et parfois, vous les appelez, ils ne prennent pas le téléphone pendant les 7 minutes. Vous rappelez, vous dites, monsieur, montez au 6e étage sans ascenseur.
Pour une mésentente avec un restaurateur ou un client, le lendemain, tu te lèves, ton compte il est désactivé. Nous constatons de l'esclavage à un temps moderne, en fait, sous forme voilée.
Un meilleur statut, du respect, cela fait partie des choses qu'ils pensent pouvoir obtenir avec un syndicat.
Si on a un souci, on ne sait pas où mettre la tête. On est perdant sur tous les côtés, en fait.
Les gens, ils ont un regard négatif sur les livreurs. Je vois raison pourquoi nous, on veut que le métier soit professionnalisé, en fait. Si de manière légale, sur le territoire national, ils sont reconnus comme nos représentants, les choses pourront bouger.
Le but également, inverser le rapport de force avec les plateformes, obtenir plus de droits. Une fois par an, ils pourront donc négocier leurs conditions de travail, mais aussi parler de leur rémunération avec leurs employeurs. Et ça, c'est quelque chose que Denis Oudinet, chauffeur de VTC pour plusieurs plateformes depuis 6 ans, réclame tout particulièrement.
Nous, ce qu'on veut, c'est premièrement avoir une discussion sur le tarif, mais pas imposé par les plateformes, que ce soit les chauffeurs, parce que nous connaissons notre seuil de rentabilité. Vous êtes dans une voiture, pour un certain prix, il y a tout ce qui va derrière, le carburant qui ne cesse d'augmenter, etc. On ne peut pas travailler pour des tarifs qui sont revus à la baisse perpétuellement par les plateformes. Nous sommes de faux indépendants, en fait. Un indépendant doit pouvoir demander son tarif.
Pour la première fois à partir d'aujourd'hui, ils peuvent donc voter pour leur syndicat. Le vote se fait en ligne. Or, beaucoup des travailleurs ne parlent pas forcément bien français. Des représentants syndicaux qui se présentent à ces élections sont donc allés à leur rencontre pour les informer, même si le plus dur, justement parce qu'ils ne sont pas représentés aujourd'hui, eh bien, c'est de les trouver.
C'est là. Et c'est à partir de ce moment-là où tu commences à voter. Il faut que tu retiennes ça. Il faut que tu aies tes 5 derniers chiffres de ton IBAN.
Allez, on va essayer. On va le faire tous les deux. On va le faire tous les deux.
Voter, valider. Et là, tu as voté.
Ok.
Voilà.
Merci.
Merci à toi.
Vous êtes en train de leur expliquer en fait comment voter ?
Oui, bah oui, parce que c'est une première pour eux.
C'est compliqué, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens à aider ?
Ce qui est compliqué, c'est de toucher les livreurs. Alors nous, on a cette chance de les avoir côtoyés depuis 11 mois. Depuis 2014, les plateformes nous ont toujours dit qu'on n'avait pas d'interlocuteur sérieux pour pouvoir discuter. C'était surtout une fausse excuse. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette excuse.
Oui, c'est bien. Il a promis de se mettre à leur disposition jusqu'au 16 mai, jour de la fin du vote.
Une information à vous soumettre, François Hollande. Emmanuel Macron, comme le veut la tradition, a rendu visite à Olaf Scholz, le chancelier allemand. C'était sa première visite à l'étranger depuis sa réélection. Et voilà ce qu'il a annoncé. Il a donné des précisions quant à la nomination imminente de son Premier ministre.
Vous avez tous les deux évoqué un conseil des ministres franco-allemand à l'été. Savez-vous, monsieur le Président, quel occupera le poste pour ce conseil des ministres? Merci.
Alors, sur la dernière question, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu.
Bien entendu, je sais qui sera le nouveau Premier ministre. Voilà, oui. C'est une information qui vient d'Allemagne.
Ça, ça ressemble au sketch de Pierre Dac. Vous pouvez le dire, oui, je peux le dire, mais il ne le dit pas. Quoi.
Voilà.
Je ne le dirai pas davantage, n'étant pas dans cette responsabilité.
Mais ce sera vraisemblablement une femme, comme annoncé par Emmanuel Macron.
Oui, c'est ce qu'il a laissé penser. Je crois qu'il y a même de femmes qui ont été approchées.
Et qui ont décliné cette proposition. Donc ça se refuse d'aller à Matignon?
J'imagine, ça se refuse. Moi, on ne l'avait pas... personne ne m'avait refusé. Peut-être qu'il l'a regretté après, mais il n'avait pas refusé.
Peut-être qu'elle était présente, il ou elle était présente samedi à l'investiture, oui.
Voilà, donc vous pouvez faire l'enquête. Maintenant, vous avez 500 personnes qui étaient là. Mais bon, écoutez, je crois que dans la vie politique, il faut attendre les échéances, elles arrivent, il y aura un choix de Premier ministre.
Mais il prend son temps quand même, hein, Emmanuel Macron, trop?
Non, je pense que nous sommes plus à quelques jours près. Je ne pense pas que le pays soit une espèce de tétanie, là, en disant, mais qui va être nommé Premier ministre? Les gens ne se suspendent pas de leur activité, sont pas là, à la radio, en train de se demander à toutes les heures qui va être Premier ministre. Je ne crois pas.
Les adieux à la reine ce soir dans le 5 sur 5.
Pas de corbillard pour Régine, la reine noire des nuits blanches, comme l'appelait François Sagan, a eu droit à une calèche noire et blanche. Tirée par deux chevaux, cérémonie d'obsèques au Père Lachaise à Paris à son image, spectaculaire, fantasque, émouvante et en présence bien sûr de nombreuses personnalités. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine, Carole Bouquet, Anthony Delon, entre autres. Régine, icône des années 60, femme d'affaires, propriétaire de 22 discothèques dans le monde entier, s'était éteinte le 1er mai dernier, elle avait 92 ans.
Autre cérémonie en Ukraine pour récompenser un héros de guerre.
Oui, patron, ce Jack Russell de 2 ans, devenu un renifleur de mines star dans le pays. Il a reçu la médaille de courage pour service dévoué. Depuis le début du conflit en Ukraine, ce chien à l'origine dressé pour la chasse aurait détecté plus de 200 engins explosifs dans le nord-est du pays. Cérémonie en présence du Premier ministre canadien Justin Trudeau en visite surprise à Kiev. Coïncidence heureuse puisque la technique de détection de ces bombes est une technique canadienne. Le propriétaire de patron, je vous rassure, a lui aussi été récompensé.
Et puis on termine avec un nouveau record du monde pour la France.
Oui, regardez, c'est le record du monde de domino palettes. Je ne sais pas si vous savez que ça existe, mais bah, c'est ça, des palettes que l'on dispose afin de faire un domino parfait. Défi relevé ce week-end sur la Grand Place à Béthune par le patron d'une entreprise d'emballage 2022 palettes comme l'année.
Oh, c'est magnifique. Ben voilà, on peut se féliciter de ce record, François Hollande.
Oui, il y a encore finalement une imagination considérable à avoir pour battre des records du monde.
J'en s'occupe en attendant le Premier ministre. Voilà, on vient s'occuper.
Merci beaucoup, Émilie. Merci, François Hollande, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Camille Cotin est notre invitée. Elle est la nouvelle coqueluche d'Hollywood, mais elle est surtout à l'affiche d'un magnifique film extrêmement sensible sur la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. A tout de suite avec Camille Cotin, les actualités de Bertrand et Olivia Ruiz qui est également notre invité du dîner. A tout de suite.